Passages de l'Europe. Les Passages de l'Europe, c'est le nom d'un cycle de conférences données à l'Institut français de Prague, et ce à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin et de la révolution de velours. Mercredi soir, le directeur adjoint de l'école normale supérieure de Paris, Frédéric Worms, ainsi que le philosophe tchèque et ancien ministre de l'éducation, Jan Sokol, donnaient à cette occasion une conférence sur les colères de l'Europe. Saria Andria et Colin Gruel ont rencontré Frédéric Worms, et ce pour évoquer avec lui la montée des populismes en Europe, l'euroscepticisme, la question de l'abstention ou encore les dangers pesant sur les démocraties européennes. Bref, tout un programme, comme vous allez l'entendre.
Frédéric Worms est un philosophe français, directeur adjoint de l'ENS de la rue d'Ulm et producteur pour la radio France Culture. À l'occasion de son passage dans la capitale tchèque, nous lui avons demandé ce que cela représentait d'être à Prague pour parler d'Europe avec le philosophe tchèque Jan Sokol, 30 ans après la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie.
C'est un lieu où c'est à mon avis un des cœurs de l'Europe, et Jan Sokol est un des, je ne sais pas dire si c'est le cœur du cœur, mais pour moi Jan Sokol c'est vraiment l'incarnation de l'Europe, l'Europe incarnée en quelque sorte. Je le connais depuis maintenant assez longtemps, on s'est rencontrés à travers des jurys de thèse, des colloques de philosophie, mais c'est vraiment... le philosophe qui incarne le mieux l'Europe aujourd'hui. Il a tout vécu d'abord dans la dissidence ici. Il a été un dissident très sévèrement réprimé par le gouvernement communiste. Puis après, il était proche de Václav Havel. Il est devenu son compagnon de lutte, ministre de l'Éducation, et puis président du Parlement brièvement. Je suis pas d'accord avec lui sur tout. On a tous les deux un point commun, c'est qu'on réfléchit à la fois sur la vie et sur la politique. Il en a une vision un tout petit peu plus, je dirais, substantialiste que je n'aurais. Pour moi, la vie n'est pas une essence, mais plutôt une sorte de tension avec et contre la mort. Pour lui, c'est plus quelque chose qui se transmet, mais c'est quelque chose qui se respecte, c'est la source d'une éthique. C'est là qu'on se retrouve dans l'idée aussi du lien entre vie et démocratie. La première fois que je suis venu, ça devait être juste autour de l'année 2000. Il y avait encore toute cette suite de la révolution de velours et la réintégration de la République tchèque dans l'Europe. C'était vraiment le modèle de l'ouverture européenne. Maintenant, ça s'est un peu retourné. Il y a eu ce tournant néolibéral, il y a maintenant ce tournant presque antidémocratique. Mais je suis sûr que la République tchèque incarne toutes les tensions, toutes les forces de l'Europe.
Entrons à présent au cœur du sujet qui amène Frédéric Worms en République tchèque, la colère. Alors que l'Europe est marquée par des contestations venues de tous bords politiques, nous nous sommes demandé quel était le rapport de l'Europe à la colère.
Pour moi, la colère, c'est un peu le refoulé de l'Europe, je dirais. L'Europe s'est construite sur la raison. Puis il y a une idée un peu plus philosophique de l'Europe, comme origine de la rationalité scientifique, philosophique, et qu'on trouve dans la phénoménologie, et que Jan Patočka, ici à Prague, a reprise déjà en la critiquant, parce qu'en fait, il a vu dans la guerre de 14, justement, comment l'Europe, c'est pas seulement la raison, c'est aussi la guerre. Donc d'une certaine façon, la colère et la guerre sont le refoulé de l'Europe. Et aujourd'hui, elles reviennent. Et à chaque fois qu'il y a des colères qui reviennent en Europe, l'Europe est surprise. Elle se dit, tiens, bon, je croyais que c'était fini, moi, la guerre, la colère, la politique. Ben non, la politique n'est pas finie. Et pour moi, c'est ce refoulé de l'Europe qu'il faut interroger, parce que, l'Europe s'est construite pour faire la paix, parce que précisément, elle est tout le temps menacée par la guerre. Et la guerre, c'est pas seulement la violence de l'autre, c'est pour moi, ce que j'appelle la violation, c'est la violence intérieure. Et en fait, l'Europe s'est construite pour éviter sa propre guerre, qui est devenue une guerre civile. Qui n'est plus une guerre entre nations, mais qui est une menace de guerre civile. Et on croit que c'est fini, parce qu'on a construit le marché commun, etc. Au contraire, elle revient. Et je pense que la colère de l'Europe aujourd'hui, elle revient parce que, précisément, on n'en a jamais fini avec la politique, avec le sentiment d'injustice. La colère, on le sait depuis Aristote, la colère, c'est d'abord un sentiment d'injustice. C'est pour ça qu'elle est noble, elle est au cœur de l'homme. Et il ne faut pas se tromper d'objet de la colère. Certaines façons, mais le sentiment d'injustice, il est refoulé en Europe parce qu'on croit que l'Europe est rationnelle et juste comme ça, par essence, techniquement. Or, c'est faux. La guerre est là, même dans l'économie, il y a des injustices, évidemment, dans l'écologie. Et tant qu'on refoule la colère, les idéologues peuvent l'orienter vers d'autres choses, contre l'Europe elle-même. D'une certaine façon, c'est à la fois juste et faux. Si l'Europe assumait ses injustices, on ne serait pas en colère contre l'Europe technocratique. Donc il faut assumer les injustices pour éviter les erreurs dans l'orientation de la colère. Pour éviter qu'il y ait des colères contre l'Europe, l'Europe doit elle-même être en colère contre ses propres injustices, contre les injustices dans le monde, etc. C'est seulement si l'Europe est en colère qu'il n'y aura plus de colère contre l'Europe.
N'y a-t-il cependant pas plusieurs colères en Europe ? Est-il vraiment pertinent de parler d'une colère singulière ? Nous avons demandé à Frédéric Worms s'il était possible de dégager des critères pour distinguer les colères saines des mauvaises colères.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des colères européennes aujourd'hui, au sens où il y a des colères inter-européennes. La Grèce peut être en colère contre l'Allemagne, etc., l'Italie contre... Mais il y a aussi des colères transnationales, des colères vraiment européennes. Donc des colères sur des objets communs européens, soit l'Europe elle-même, Bruxelles entre guillemets. Bruxelles cristallise un certain type de colère européenne. D'un autre côté, il y a évidemment des colères transnationales aussi contre les unes contre les autres. On peut être en colère contre les populistes qui eux-mêmes sont en colère contre les Européens. Donc si on le voit positivement, ça politise, donc ça fait exister l'Europe politiquement. Pour moi, l'Europe politique, c'est pas juste une puissance qui s'ajoute à une autre, un pouvoir, disons, politique qui s'ajoute à un pouvoir économique. C'est vraiment l'entrée en scène de la colère, on pourrait dire, et donc du désaccord européen. La question, c'est le cadre, que la colère ne fasse pas éclater le cadre. Et c'est là qu'on en vient aux mauvaises colères. Je pense les colères qui sont là pour renforcer le cadre et d'autres qui sont là pour le détruire. C'est un peu le critère, en fait. C'est-à-dire que les bonnes colères sont celles qui sont là pour, par un sentiment d'injustice, mais aussi de valeur de ce qu'il faut protéger. Et les mauvaises colères sont des sentiments d'injustice destructeurs. Les lanceurs d'alerte, les dissidents, tous les citoyens qui font acte critique sont dans des colères constructives, en fait. Des indignations constructives. Et ils veulent renforcer le cadre, renforcer les lois, renforcer le cadre commun, dénoncer les abus, etc. Inversement, ceux qui sont dans des colères destructrices, ils sont pas là simplement dans un sentiment d'injustice, ils considèrent que le cadre lui-même est inacceptable et ils veulent le détruire. Donc ils n'ont plus confiance dans le cadre. Et ça, c'est extrêmement grave. Et effectivement, le Brexit, c'est une manière d'instrumentaliser la colère dans ce sens-là. Et je pense d'ailleurs que, comme toujours, ceux qui agitent les colères sont souvent eux-mêmes cyniques. Ils ne sont même pas vraiment en colère, en fait. Ils s'en fichent un peu.
Cette colère, qui s'exprime sous de nombreuses formes, pose donc le problème de la démocratie. Quand elle s'exprime, c'est que la démocratie doit se réformer.
La démocratie, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est en effet des institutions pour traduire le désaccord et la colère dans des pratiques et lui fournir un cadre. Mais ces institutions ne sont jamais parfaites. Parce que le sentiment d'injustice va toujours chercher plus loin et il a raison. Moi, je défends l'idée que la démocratie consiste à créer des problèmes.
De ce point de vue, nous avons demandé à Frédéric Worms s'il pouvait identifier les spécificités de la colère en République tchèque, un pays plus marqué encore que la France par la montée des populismes, mais où la colère semble bien moins s'exprimer.
Je pense qu'il y a une très très grande déception démocratique dans l'Europe centrale et orientale. Là, on rejoint le début, c'est-à-dire qu'il y a un refoulé majeur. Ils ont rejoint l'Europe au nom de la lutte contre une injustice majeure, quand même, contre une dictature. Et puis, ils se sont retrouvés dans une Europe qui n'est certes pas une dictature, mais qui s'est trouvée dépolitisée, justement. Alors donc, il y a une déception, je pense qu'il y a une frustration démocratique. C'est un peu l'effet de la fin de l'histoire supposée en 89. On a dit à tout le monde, c'est fini, la politique est finie, on est en démocratie, on est en Europe, etc. Alors, on voit bien que tout le monde sent que c'est pas fini. Donc il faut redonner le sentiment aux gens que c'est pas fini, pour le meilleur et pour le pire, et qu'il y a un enjeu. Je pense qu'en République tchèque, évidemment, je suis biaisé, puisque les gens avec qui je parle ici sont très très inquiets, très très actifs, traduisent, discutent tout le temps. Au fond, on n'est plus à un moment où la raison peut suffire. Et donc il faut montrer que l'Europe agit contre des injustices, que l'Europe est en colère, fait des choses vraiment par indignation forte, contre la pollution, contre le chômage, etc.
Une indignation se déclinant selon plusieurs modalités d'ailleurs. Dans les clichés, plutôt que la colère, on évoque souvent l'ironie tchèque, qui tempère les choses tout en nous prenant au dépourvu par son jeu sur l'ambiguïté. On parle bien de révolution de velours. Et au début de l'entretien, Frédéric Worms avait évoqué ces cyniques qui agitent la colère des peuples. Où placer l'ironie sur l'échelle des colères ? Dans sa mise à distance avec les événements, va-t-elle de pair avec le cynisme ?
L'ironie, c'est un pouvoir critique, et c'est un pouvoir critique et bienveillant. C'est-à-dire qu'il faut distinguer l'ironie et le sarcasme, ou l'ironie et la raillerie. Et je pense donc que l'ironie, en effet, peut sembler non colérique, parce qu'elle est aussi, en un sens, bienveillante, elle protège, elle évite aussi de détruire. Mais en fait, l'ironie, c'est profondément critique, c'est la résistance. L'humour et l'ironie sont évidemment des pouvoirs démocratiques majeurs. Quand vous me parlez d'ironie, j'entends quand même colère, mais justement la bonne colère. C'est-à-dire, c'est pas le cynique ou le railleur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on fleurit sur les plateaux de télévision du monde entier des idéologues de la raillerie, de la détestation. La seule résistance à leur opposer, c'est l'ironie. Donc moi, je jouerais bien Kafka ou Schweig contre Trump ou les supposés intellectuels français de la transgression. Donc non, il faut s'appuyer sur l'humour tchèque. J'espère qu'ils vont retrouver les pièces de théâtre de Václav Havel pour comprendre que la gauche, c'est le sel de la terre.
L'ironie ne reflète donc pas un détachement passif face aux événements. En revanche, l'abstention, que traduit-elle et surtout, quel danger représente-t-elle ? En effet, aux dernières élections européennes, moins d'un électeur tchèque sur cinq s'était rendu aux urnes. Est-ce là l'expression d'une colère juste ou viciée ? Ou même, est-ce que cette abstention reflète un détachement vis-à-vis du politique bien en deçà de toute colère ?
Non, ça c'est le pire de tout. Le sociologue Hirschman, qui a écrit d'ailleurs sur les passions et les intérêts, il a écrit deux grands livres, Hirschman, à mon avis, un qui s'appelle « Les passions et les intérêts », pour montrer comment on a cru au XVIIIe siècle que les intérêts économiques pouvaient lutter contre les passions politiques, une sorte d'illusion de la paix par le commerce, qui est bien présente au cœur de l'Europe. Puis son deuxième grand livre, c'est « Exit and Voice », c'est-à-dire l'idée que quand on « voice », quand on est en colère, c'est par attachement, justement. C'est qu'on tient encore au lieu. Inversement, quand on « exit », c'est-à-dire quand on ne manifeste même plus, là, il faut vraiment s'inquiéter. Il faut faire très attention à ces grandes défections, ces grands silences destructeurs. Non, moi, je pense que ça, c'est le pire de tout. Je suis un peu surpris. Je pensais que cette année, les élections allaient être, justement, revitalisées par les crises européennes, que les gens allaient voter, même si c'est pour l'extrême droite, pour Salvini, contre Macron. Il y a quand même une politisation de l'Europe aujourd'hui. Je pense quand même que ça change un peu. Je préfère ça, même si c'est dangereux, plutôt que l'abstention. Effectivement, ça, c'est quand même le pire de tout. Cette question de l'abstention, elle est redoutable. Je suis convaincu que, par exemple, qu'en France, les gilets jaunes sont beaucoup des abstentionnistes qui sont sortis. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Et on sent bien, d'ailleurs, que tout le monde a voulu les récupérer aussitôt. Les gens qui votent pas, qui tout à coup sortent. Et ils l'ont dit, d'ailleurs, hein, nous, on vote plus, on s'en fout. Mais là, quand même, bon, donc on sort. Et la question, c'est après, tous ceux qui leur ont tourné autour. Mais justement, ce qui est un peu rassurant, je pense, dans ce mouvement en France, c'est que personne n'a réussi à les récupérer. Donc, on voit bien que dans le silence de l'abstention couvrent les incendies antidémocratiques.
L'abstention n'est pas le seul silence qui présente un danger. On a évoqué la pluralité de l'Europe, qui en est à la fois la richesse et le fardeau, parce qu'à trop entendre parler de l'Europe, on en oublie parfois les diversités. Or, ne pas faire d'efforts pour connaître son voisin risque d'installer des tensions sous-jacentes, qui à terme briseraient définitivement cette Union européenne. Dans un tel contexte, Frédéric Worms appelle à intensifier les échanges culturels entre les pays européens.
Oui, je pense que c'est le mot, ça tient en trois lettres. Oui, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et même s'indigner de certains oublis historiques dans les deux sens. Je pense que c'est très important de comprendre qu'il y a plusieurs situations historiques en Europe et que le XXe siècle n'est pas terminé, il a laissé des traces. Mais je pense qu'il n'y a pas d'essence des peuples. Hein. Tout le monde partage aujourd'hui des inquiétudes transnationales. C'est aussi aux autres, par exemple aux Français, de donner la parole aux Tchèques et ailleurs. Il ne faut pas demander aux autres quelque chose, justement, si on n'est pas prêt à les écouter ensuite. Donc là, vous faites ça, ici, c'est très important. Mais est-ce qu'à Paris, on parle beaucoup des Tchèques ? La réponse est non. C'est grave. Il faut aussi comprendre ce qui se passe ici, ou en Pologne, ou en Hongrie, et pas caricaturer. Il faut comprendre pourquoi, d'où ça vient. Là, ils nous envoient des signaux majeurs, je pense. C'est aussi notre responsabilité.
Une responsabilité d'autant plus marquée qu'il existe réellement des liens entre la République tchèque et la France, comme nous explique Frédéric Worms.
Il y a une tradition franco-tchèque, en philosophie en particulier. Masaryk était très proche des philosophes français de l'époque, très lié à Braunschweig, à la revue de métaphysique et de morale. Jean Kelevitch est venu séjourner à Prague dans les années 30. Václav Havel s'est beaucoup inspiré de Lévinas. Et inversement, Ricoeur a introduit Patochka en France. Patochka est maintenant un philosophe majeur. Donc il y a une sorte de connexion intime, y compris par la philosophie.